CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, beaucoup de monde. Monique Couteau qui revient en deuxième chapitre sur l'intelligence artificielle.
Oui, je vous avais promis une deuxième partie. La voilà, elle portera plus sur l'IA et l'éducation, la recherche et les services publics.
Sera suivie de la chronique à table avec Clément et qui va nous parler cette fois-ci de la courge.
C'est ça, il y en a des poivrés, il y en a des musqués, il y en a des bleus de Hongrie, c'est les courges.
Ensuite, nous accueillons un nouveau chroniqueur, Jean Barthes, qui va, lui, nous parler non pas de problèmes, mais de solutions. Bienvenue Jean Barthes. Aujourd'hui, tu commences par quelle chronique ?
Alors aujourd'hui, on va parler, bonjour à tous, on va parler de Nestlé, qui a fait grand bruit autour de l'eau aujourd'hui.
Alain de Frémont, pour sa chronique Art et Culture, tu as invité Marilyn Lanaspez pour parler du prix des libraires en scène.
Oui, alors nous avons la chance à Chaville d'avoir deux librairies, donc ça sera l'occasion de les mettre à l'honneur et de parler un petit peu de ce que c'est que ces libraires en scène.
Et on terminera l'émission avec À portée de parole avec Monique Couteau qui a invité Pierre-André et Gabriel de l'entreprise, l'imprimerie locale Polygraphe.
Oui, ils nous parleront de ce qu'ils font et de leurs projets.
Tout de suite, dossier du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Eh bien, lors d'une précédente émission, nous avons abordé la question de l'intelligence artificielle, son histoire et les questions éthiques qui se posent avec son développement. Aujourd'hui, toujours à partir de la réflexion menée par la FSU, nous allons nous pencher sur les applications de l'IA dans les services publics, l'enseignement, la recherche et les problèmes que ça soulève.
Au-delà des problèmes et questions que tu as soulevées il y a deux émissions, et avant que tu abordes la question de l'éducation, l'IA peut-elle être un atout pour l'humanité ?
Oui, l'IA peut être une source de progrès lorsqu'elle permet d'approfondir les connaissances, d'acquérir de nouvelles capacités, d'enrichir les relations avec l'environnement, de renforcer l'autonomie et l'émancipation des individus et des collectifs. L'IA peut nous aider à nous déplacer, à rédiger des textes, à répondre à des questions en raccourcissant les temps de recherche, à utiliser des objets, des machines. Dans le champ médical, par exemple, les atouts sont immenses. Détection et diagnostic précoce, y compris de pathologies invisibles à l'œil nu, adaptation et personnalisation des traitements. Mais la machine reste un outil. Elle ne remplace pas, par exemple, la relation soignant-soigné.
Tu as parlé des services publics, quels exemples d'applications de l'IA dans ce domaine ?
908 millions d'euros du plan France Relance seront consacrés à la transformation numérique des services publics avec un recours croissant à l'IA. L'IA permettrait par exemple à France Travail de déterminer l'éligibilité des chômeurs et des chômeuses à une allocation, à son montant, à sa durée. La loi JO de 2024 a autorisé l'IA à faciliter la détection des événements anormaux dans l'espace public avec la vidéosurveillance. Aujourd'hui, elle permet la reconnaissance faciale dans le secteur de la fiscalité. L'IA est utilisée pour mieux cibler les anormalités. Elle est utilisée également dans la gestion des territoires, circulation, éclairage, cartographie, urbanisation des territoires. L'IA est censée accompagner les agents des services publics dans les réponses aux usagers pour les questions en ligne. 200 restaurants universitaires sont équipés d'IA pour analyser le gaspillage alimentaire, par exemple. Parcoursup, lancé à la suite de la loi du 8 mars 2018 sur l'orientation, traite des millions de vœux des étudiants pour leur orientation post-bac. Dans nombre de ces domaines, les critiques se sont multipliées sur cette gestion par l'IA. Parcoursup, par exemple, pour sa lenteur, son caractère stressant et le manque de clarté, voire son opacité sur les critères de sélection des formations proposées aux étudiants, souvent jugées incompréhensibles. La défenseure des droits a alerté dans le domaine social sur le fait que certaines populations sont stigmatisées, notamment chez les plus précaires, à cause des choix de données et du paramétrage des algorithmes, mais aussi sur l'exploitation des données privées en fouillant sur les réseaux sociaux, dans le cadre fiscal par exemple, ou encore sur les risques de surveillance généralisée via la reconnaissance faciale et les 90 000 caméras installées.
Dans le domaine de l'éducation, quels sont les constats faits par la FSU ?
Il y a eu une véritable accélération de l'entrée de l'IA dans ce secteur depuis la mise en place en urgence de l'enseignement à distance lors de la pandémie de Covid-19, à marche forcée et sans consultation des personnels concernés et de leurs représentants. Dès 2018, le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-Michel Blanquer, vantait les mérites de l'IA qui serait capable de construire des cours, des activités, d'évaluer, de différencier, de remédier, de corriger les copies et finalement de faire des enseignants, des animateurs de séances, ayant de moins en moins la main sur la conception et la conduite de leurs cours, libérant ainsi du temps pour les enseignants, permettant sans doute de leur faire prendre en charge plus de classes. Avec les risques de déqualification de la profession et dans un contexte à la fois de suppression de postes et de difficultés de recrutement et donc de possibles remises en cause des statuts existants. En décembre 2023, le choc des savoirs de Gabriel Attal prévoit l'expérimentation et la généralisation de MIA seconde, module interactif adaptatif, une IA censée accompagner les élèves en français et en mathématiques. Puis, début 2024, des appels d'offres d'un montant estimé à 13 millions d'euros ont été lancés pour développer ces assistants pédagogiques dopés à l'IA pour l'enseignement et l'apprentissage en maths, français et langue vivante. Dans les faits, pour la grosse centaine de lycées expérimentateurs, parfois sans information des enseignants d'ailleurs, la plateforme souvent inaccessible s'apparente à une banque d'exercices où la personnalisation promise se limite à la répétition d'un faible nombre de tâches similaires, mais un investissement de 4 millions d'euros à la société Evidence B qui peut utiliser élèves et enseignants comme cobayes en quelque sorte pour améliorer son produit en attendant la généralisation de MIA annoncée pour septembre 2025. Comment des machines peuvent-elles prendre en compte le contexte, l'histoire de l'élève, l'analyse de la cause de ses erreurs, la dynamique d'un groupe classe, ce qui est aussi fondamental dans le processus d'évaluation et de correction personnalisée de chaque copie. Une IA ne donne pas de sens. Elle ne fait que reproduire la réponse la plus probable face à une situation donnée. Quant à l'enseignement des langues, les traducteurs automatiques échouent régulièrement à saisir les nuances culturelles. Les technologies de reconnaissance vocale ne prennent pas en compte la diversité des accents et des variantes. Donc, on est encore bien loin d'un fonctionnement satisfaisant.
Qu'en est-il pour la recherche ?
En ce qui concerne la recherche, la montée en puissance de l'IA a des effets négatifs sur l'orientation de la recherche publique, notamment dans les universités. L'impératif de trouver des financements implique de recourir à des partenariats avec des entreprises privées, avec le risque de concentrer les axes de recherche sur des thématiques qui sont plutôt celles de l'industrie. Les GAFAM et globalement les entreprises de la high-tech ne partagent pas les mêmes objectifs que les chercheurs, avec à la clé la tentation que les chercheurs taisent leurs critiques sous peine de perdre des financements. Les GAFAM disposent d'infrastructures comme de gigantesques entrepôts de données sans équivalent dans le domaine public. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche incite les enseignants à recourir à l'IA pour créer des cours et pour détecter les plagiats. L'usage de la captation des données sur les étudiants se développe sans que l'on sache vraiment l'usage qu'en font ensuite les entreprises. L'IA permet ainsi de procéder à l'analyse de situations ou de comportements, comme l'analyse faciale, permettant en théorie de détecter la fraude. Donc surveillance des étudiants via leur portable, évaluation des copies, voire orientation. Tout ceci explique pourquoi l'Union européenne désigne plusieurs usages de l'IA dans l'éducation comme pratique à haut risque.
Merci beaucoup Monique, on comprend. Oui, Alain de Frémont.
Oui, alors, je voudrais un petit peu compléter. J'ai écouté récemment une interview de Jean-Michel Jarre qui parlait justement de l'IA dans le domaine artistique.
Oui.
Alors il disait que c'était une formidable moissonneuse du passé parce que ça permettait, dans les enregistrements qui étaient assez anciens, de les requalifier un petit peu, de les rendre plus audibles. Mais par contre, juridiquement, ils mettaient en garde sur le fait que la notion de droit d'auteur restait encore disponible, mais restait un peu flou au niveau de l'intelligence artificielle. Donc il fallait se positionner rapidement là-dessus.
Merci Alain, merci Monique. On comprend donc que pour la FSU, les outils utilisant l'IA ne doivent pas être imposés au personnel. Une réflexion critique sur les usages de l'IA et leurs conséquences doit être menée, ainsi que des recherches publiques sur les impacts potentiels de l'IA concernant le travail des élèves et des enseignants. L'IA ne doit pas permettre de masquer la dégradation des conditions de travail ou constituer une opportunité de mécanisation des enseignements et de l'orientation en servant de levier à des suppressions massives de postes ou à cacher les raisons des difficultés de recrutement. Il faut remettre l'IA au service de l'intérêt général, de la protection sociale et de la dignité humaine. Retrouvez toutes ces informations sur le site FSU. Merci Monique, on passe tout de suite à la chronique de Clément Chassin. À table avec Clément Chassin.
Oui, donc aujourd'hui je vais vous parler de la courge, ou plutôt des courges, parce que il y a beaucoup de variétés de courges, il y a des formes, des tailles, des couleurs, des goûts différents. C'est formidable, il y a plein de choses à découvrir. N'hésitez pas à aller parler à vos maraîchers, ils vous feront découvrir des trucs formidables. Alors, donc toute cette diversité, c'est un super terrain de découverte, de créativité. Et un truc qui est vachement bien avec les courges, c'est que ça se conserve très facilement aussi. Au sec, au frais, même pas besoin de les mettre au frigo, ça se conserve tout seul. Donc on peut en manger pendant des mois. Là, ça tombe bien, on est en plein hiver, c'est la saison. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait des courges ?
Des purées.
Tartes. Des quiches de courges.
Des purées. Voilà,
des purées, des tartes, des courges.
Des maracas.
Des maracas aussi. Voilà. On peut en manger les graines, tout ça. Voilà. Alors bon, le problème des tartes, c'est que ça prend un peu de temps à préparer de ça. Là, je voulais vous parler de la courge rôtie.
Ah.
Voilà, une recette qui n'est pas forcément très connue, qui est ultra facile et qui fait toujours son petit effet. Donc, pour la courge rôtie, c'est facile. Il suffit de couper la courge en deux, d'enlever les graines. Après, on la coupe en tranches assez épaisses. On badigeonne d'huile et d'épices. Hein, au plus simple, un peu d'huile d'olive, sel, poivre, en voilà. On met au four, 181 degrés, 50 minutes, une heure à peu près. Il faut juste que ce soit tendre. Et voilà.
Ah, ça me rappelle un plat aussi qu'on fait. On fait ça avec les potimarrons aussi, non ?
Oui, le potimarron est une courge.
Ah, d'accord.
Donc, effectivement,
ça fait partie de la citrouille. Les citrouilles aussi, alors.
La citrouille, le potiron, le potimarron, c'est des courges.
Je pense pas que c'est la famille. Pour moi, c'est des cucurbitacées. D'accord.
Et si, c'est une très grande famille, voilà. Donc ça, c'est au plus simple. Après, si on a envie de se lâcher un petit peu, on peut chercher sur Internet, on trouve plein de recettes de courge rôtie. Voilà, j'en ai fait une récemment où j'ai badigeonné avec un petit mélange d'huile, d'ail, de miel, de romarin, sel, poivre. Ça a donné son petit goût, c'est sympa comme tout. Voilà, c'est très simple et ça fait son petit effet.
Ça se conserve combien de temps ? T'as dit ça se conserve, âmes éternelles, mais combien de temps ça fait ça ?
La
courge 3 ans, 10 ans, 1 an.
Je sais pas parce que je les mange avant. Je t'avouerai que je la mange avant, mais ça peut se conserver quelques mois, oui.
Ok.
Oui, quelques mois. Après, les courges, on en trouve en hiver et on en trouve aussi en été. Il y a deux saisons dans l'année, donc c'est pas la peine de les conserver trop longtemps non plus.
Merci beaucoup Clément pour ce clin d'œil culinaire. On passe maintenant la parole à Jean-Bart qui va nous parler, je le rappelle, de Nestlé et donc de l'eau.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc parler d'eau. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau, ça mouille. Et quoi de mieux que le numéro 1 mondial de l'eau en bouteille pour être éclaboussé par un scandale ? Alors, de quoi parle-t-on ? Nestlé Water, qui possède Perrier, Vittel ou Contrex, est accusé de fraude. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vendu de l'eau sous appellation eau de source, alors qu'ils avaient été filtrés après une contamination bactérienne. Autrement dit, ils ont nettoyé de l'eau avec des filtres et l'ont vendue comme de l'eau minérale naturelle. Alors, la faute à qui ? Ici, tout le monde est dans le même bain. Il y aura une enquête pour savoir si l'État a fermé les yeux, mais la directrice de Nestlé Water, Madame Lino, affirme qu'ils n'ont jamais exercé de pression sur les autorités. De toute façon, mettre la pression quand quand on parle d'eau, c'est de mauvais goût. Donc, venons-en au fait. Si l'eau en bouteille n'est pas fiable, qu'est-il de l'eau du robinet ? Et là, j'ai eu un petit frisson avec mon enquête sur Chaville. Résultat, la mairie a cessé de publier les bilans sur Internet depuis 2021. Je suis donc allé sur le site de Veolia où j'ai trouvé des chiffres, sans aucune analyse d'expert pour les expliquer, de quoi attiser encore un peu plus ma soif d'information. Je me suis donc remonté les manches pour comparer ces données, et roulement de tambour, bonne nouvelle, l'eau de Chaville est a priori de bonne qualité. Enfin, a priori, parce que selon Rémi Slama, chercheur de l'INSERM, interviewé dans l'Express, affirme que certains polluants comme les résidus de médicaments ne sont pas testés régulièrement. Tout ça, ça devrait changer d'ici à 2026. On ne sait pas pourquoi il faut attendre autant de temps pour des questions de santé publique, mais les tests devraient être enfin élargis et être systématisés. Donc en attendant, pour se rassurer, on peut se dire qu'il n'y a pas d'agriculture intensive, ni de canalisation en fin de vie à Chaville. Bref, avec un peu d'optimisme, l'eau du robinet c'est ok. Affaire à suivre.
Merci beaucoup Jean-Bart. Alors peut-on encore faire confiance aux eaux minérales ?
Eh bien oui, la question est naturelle et c'est à notre grand étonnement Nestlé est mis en cause sur ses scrupules. Dans le fond, les bouteilles en question ne présentent pas de risque manifeste pour la santé. Davantage, d'autres marques n'appartiennent pas à Nestlé Water et on est libre de pouvoir acheter l'eau qu'on veut. Toutefois, tout n'est pas parfait. Niveau santé, l'UFC Que Choisir a mis en avant que les bouteilles sont chargées de microplastiques. Niveau production de pétrole, chaque seconde près d'un million de bouteilles plastiques sont vendues dans le monde. Et enfin, niveau pollution, 79% des déchets plastiques finissent en décharge ou dans la nature.
Tu as parlé tout à l'heure des résidus de médicaments. Sont-ils dangereux pour la santé ?
Alors, a priori, pas suffisamment dangereux. Il est question d'infimes quantités pour lesquelles il faudrait des années avant d'ingérer l'équivalent d'un médicament. Personnellement, j'ai pas trouvé d'études qui démontrent des risques sanitaires. Cependant, les scientifiques restent vigilants car les effets à long terme d'une exposition prolongée sont pas encore totalement connus. Voilà pourquoi il est important de rappeler qu'il faut pas jeter ces médicaments aux toilettes, mais bien de les ramener en pharmacie.
Alors, un citoyen, un chavillois, s'il veut mesurer son eau, est-ce qu'il peut le faire seul ?
Pour pouvoir améliorer sa qualité de son eau, en fait, c'est un peu sur quoi je voulais orienter ma chronique, mais malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Certains filtres ont aussi été épinglés par l'ANSES, l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire de l'Alimentation. Et surtout, il faut bien respecter la durée d'utilisation recommandée, au risque qu'ils ne viennent polluer votre eau à son tour. Les filtres ne font pas tout, le mieux est de rester informé et de renseigner sur la qualité de l'eau de sa commune et éviter le gaspillage pour mettre sa pièce dans la machine.
Merci beaucoup Jean-Bart. On passe tout de suite à la chronique Agriculture avec Alain de Frémont et son invitée Marilyn Lanaspez.
Bande annonce avec Alain de Frémont.
Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Alors tu nous as parlé du prix des libraires en Seine. Mais qu'est-ce que c'est et comment en as-tu eu connaissance ?
Ce prix est une des actions de l'association Libraire en Seine. Seine comme le fleuve. Il consiste à désigner un lauréat à l'issue d'un double processus. Une sélection de 6 romans parmi 40 qui ont été présélectionnés par les 15 librairies de l'association.
Ce sont des librairies des Hauts-de-Seine ?
Pas seulement les Hauts-de-Seine, c'est de l'Ouest parisien.
De l'Ouest parisien, d'accord.
Voilà. Donc la deuxième étape, c'est un vote par un jury composé de lecteurs et lectrices qui se sont inscrits. Et le prix 2025, qu'on appelle le prix Corinne Kim 2025, est la 13e édition du genre.
Et alors comment en as-tu eu connaissance alors ?
Un jour de 2023 ou début 2024, la responsable de la librairie de la Pointe de Chaville m'a expliqué rapidement le principe. En décembre dernier, alors que je furetais dans sa librairie, une dame m'a conseillé un livre. C'était un des présélectionnés du prix 2025. De là, une discussion a démarré à trois avec Joël, la responsable de la librairie. Donc, un livret présente les 40 romans et les arguments des libraires qui les ont choisis. Fin janvier, les 6 finalistes seraient révélés. Des groupes de lecteurs inscrits échangeraient des livres et leurs impressions pour terminer par un vote.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette association Libraire en Seine ?
C'est une association qui a été créée en 2012, qui regroupe donc aujourd'hui 15 libraires situés dans les départements de l'Ouest parisien. Ça représente une cinquantaine de libraires. La librairie La Pointe de Chaville, une des deux librairies de Chaville, a rejoint l'association en 2023. Et les opérations de l'association visent à défendre le livre papier, la librairie indépendante et à promouvoir des ouvrages qui seraient peut-être passés inaperçus. Ce sont donc des coups de cœur de ces libraires. Il existe également, j'en ai pas parlé tout à l'heure, trois prix jeunesse répartis en trois tranches d'âge.
Et alors, quelles sont les principales étapes de ce prix ?
Pour cette année, c'était en novembre 2024. Les 50 libraires de l'association ont présélectionné 40 romans. Cela a fait l'objet d'un livret que j'ai ici, distribué dans chaque librairie participante. Fin janvier 2025, c'est le lancement du prix. Les 6 finalistes ont été dévoilés par mail et sur la page Facebook de la librairie de La Pointe. Également sur celle de l'association, bien sûr. Et sur son site internet. Ensuite, il y a eu également le lancement des prix de jeunesse. On s'ensuit une période d'inscription des lecteurs et lectrices auprès de la librairie, de chaque librairie, du 29 janvier au 10 février. Le 10 février, les lecteurs du jury sont invités à une soirée de lancement à la librairie de La Pointe, où des groupes de lecture seront formés. Puis viennent donc une nouvelle période jusqu'au 16 mai avec les lectures, les échanges et enfin le vote jusqu'au 16 mai. Et tout ça pour annoncer le lauréat le 18 juin. Et une soirée de remise des prix aura lieu à Courbevoie.
Est-ce que tu as la chance d'être parmi les lecteurs et lectrices sélectionnés ?
Alors justement, ça m'a intéressée. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de renseignements. Et je me suis inscrite dès le mois de décembre, je crois.
Très bien. Ben, tu ne manqueras pas de nous tenir informés du vote final et puis du livre qui aura été choisi.
D'accord, très bien, oui. et si on peut, on aura plus de précisions.
D'accord, ben, merci Marilyn.
Merci beaucoup. Merci Alain, merci Marilyn. Tu reviens quand tu veux, évidemment, en studio de Radio VCE. Et on termine par la chronique de À portée de parole avec Monique, Gabriel et Pierre-André. À portée de parole, les Chavillois prennent le micro.
Oui, bonjour à tous les deux et merci de votre présence ce soir à Radio VCE. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'un et l'autre votre parcours professionnel et peut-être aussi, Gabriel, nous rappeler quand a commencé cette aventure chavilloise de polygraphe ?
Bonjour, je m'appelle Gabriel Vory, j'ai créé ou repris l'imprimerie de Chaville il y a maintenant bientôt 5 ans, en juin 2020. Avant ça, j'ai suivi un cursus à l'école Estienne où j'ai appris la gravure et le dessin de caractères typographiques. Et voilà, suite à ça, il y a une très bonne rencontre avec mon prédécesseur, Monsieur Benoît Lucie. J'ai décidé de reprendre le flambeau et de continuer de faire vivre cette imprimerie qui mêle à la fois une pratique artisanale et numérique.
Et toi, Pierre-André ?
Ouais, je suis un ami de longue date de Gabriel, on se connaît depuis à peu près la période du lycée. J'ai pas grandi à Chaville, contrairement à toi, j'étais plus du côté de Garches, mais toujours en 92. J'ai un parcours un peu touche-à-tout, j'ai fait des études en lettres sciences sociales, j'ai été dans l'éducation alternative, j'ai été coursier à vélo à Paris, je me suis fait des armes en graphisme, design graphique, un peu en autodidacte, et donc nos parcours se sont croisés en 2021-2022, je suis d'abord arrivé en tant que client pour imprimer des étiquettes que je faisais à partir de mes illustrations. Et en fait, j'ai sauvé la vie de Gabriel sur une mission, une livraison. Je suis allé avec mon petit vélo cargo aller chercher des cartons de dorure qu'il fallait chercher à Maul dans 78. C'était une urgence pour un client. Mmh. Et parce que voilà, Gabriel en avait besoin pour faire de l'impression artisanale le jour même. Et à partir de là, on est resté en lien et je t'ai épaulé autant sur de la mise en page, de l'administratif.
Graduellement travailler de plus en plus ensemble au début pour une base un peu plus ponctuelle et puis après une récurrence hebdomadaire et puis maintenant depuis septembre sur une base quotidienne.
Et oui, salarié.
C'est une machine, j'entends, dorure, c'est la fameuse machine ancienne là que
c'est,
tu as.
C'est l'Edelberg qui est au fond de l'atelier.
Tu vas nous en parler un petit peu ?
Tout à fait, justement on a eu un petit projet avec, on parlera un peu plus tard.
C'est une belle histoire. Hein. Donc actuellement, alors quelles sont vos principales activités ? Avec qui travaillez-vous ? Avez-vous des spécificités ? Peut-être une machine en particulier d'ailleurs ?
Pour répondre, on va dire rapidement, on fait de tout. avec tout le monde. Pour répondre plus précisément, si on doit dire qu'on a des spécialités, je pense que c'est l'attention et la qualité sur des projets qui sont un peu exigeants. On travaille de plus en plus avec des artistes peut-être émergents ou locaux, en tout cas des gens qui ont besoin d'avoir un interlocuteur ou des interlocuteurs qui prennent soin des projets qui leur sont confiés. Dans cette même mouvance, on fait aussi beaucoup de carterie, faire part de mariage, de naissance. Ça, c'est des travaux sur lesquels, en fait, il y a beaucoup de travail de conseil, d'accompagnement, au-delà de simplement imprimer un objet. Et justement, c'est sur ce type de projet qu'on va pouvoir exprimer un peu notre partie plus créative et artisanale, notamment en travaillant sur la presse que vous pouvez venir voir au fond de l'atelier, qu'on appelle une OFMI, qui est un peu un couteau suisse de l'imprimeur, qui permet d'imprimer beaucoup de types de production, notamment avec des caractères en plomb, comme à l'époque de Gutenberg. Moi, je l'utilise pour imprimer du coup le marquage à chaud sur les faire-part de mariage de pas mal de Chavillois maintenant, depuis 5 ans.
Je peux suivre là-dessus. On se situe à cette échelle d'imprimerie de ville où on va s'adresser à plein de clients différents. Ça va être des associations locales ou moins locales. Les particuliers, effectivement, ça va être plus pour la carterie, les faire-part, ou même de l'impression de documents reliés, etc. On accompagne des personnes sur l'édition de livres à compte d'auteur. On propose de la mise en page. On a tout un service graphique et on a cette compétence-là qu'on apporte et qui peut nous permettre d'accompagner pas mal de monde. On bosse avec des petites entreprises ou des même moyennes et plus grosses sur des projets souvent prototypes. Voilà, ça peut être... On a par exemple travaillé là récemment sur des jeux de cartes de sensibilisation à l'environnement dans les aéroports. Bon, c'est... comment est-ce qu'on pourrait faire l'aéroport plus vert de demain? Et c'est des... Voilà, on a accompagné un client sur le design du prototype jusqu'à ce qu'il puisse le présenter et le défendre. C'est le genre de choses qu'on peut faire à l'imprimerie. Ouais.
Bah, ça fait beaucoup de choses déjà, ouais. Et ça donne envie d'aller voir de près. Et alors, est-ce que vous avez des projets particuliers pour l'avenir?
Alors je pense qu'on en a deux. Il y en a un qui est un projet déjà existant mais qui se précise, on pourrait dire. C'est un projet de carnet upcyclé. Depuis 5 ans, on collecte des petites chutes de papier à l'occasion des projets réalisés chez nous avec nos clients. Et tous ces petits bouts de papier, on s'est dit que plutôt que de les jeter, de simplement les recycler, on pourrait en faire des petits objets. Donc cette année, on a profité de l'occasion du marché de Noël organisé par la mairie pour proposer nos petits carnets upcyclés sur la place du marché, de poser aux gens de réaliser leur propre carnet. On avait ramené les machines, etc. Pas mal d'enfants se sont prêtés au jeu. C'est aussi l'occasion pour nous, en fait, de, par exemple, avec la machine de marquage à chaud, venir appliquer un petit détail en plus, d'habiller ce carnet. Et en fait, ça peut-être que Pierre-André en parlera mieux que moi, mais on a eu envie de broder un peu sur cette idée-là avec nos clients.
Oui, c'est ça. On s'est dit que on aimerait commencer à inviter des artistes en collaboration sur de la papeterie. C'est quelque chose qu'on fait déjà avec des personnes qui l'ont demandé en tant que client-cliente, mais ouais, on serait complètement ouvert à développer des gammes de papeterie upcyclées avec des designs, des illustrations 100% chavilloises ou du moins locales. Voilà, donc appel à projet si vous êtes intéressé.
Appel à nos auditeurs créatifs.
Voilà.
Et la dernière note, c'est que comme je l'ai dit en introduction de notre entretien, Polygraph a bientôt 5 ans, en juin 2025.
Ça s'arrose
exactement. On avait envie d'organiser une petite exposition. On avait fait une pour les 3 ans. Et là, l'idée, ça serait d'inviter en fait les anciens stagiaires, bénévoles, alternants qui sont passés par l'atelier, tous les gens qui se sont formés, nous ont formés, ont retiré quelque chose de ce lieu et à qui on pense que nous aussi, on doit... rendre, et puis l'occasion de le montrer à nos autres clients qui ne connaissent pas toujours cette face-là de notre travail ou de notre approche.
Moi, c'est un beau projet, on y sera. Hein.
Vous êtes situé où à Chaville?
Alors, si vous voulez nous retrouver, on est tout en bas de l'avenue Roger Salingros, on est plutôt côté Sèvres, enfin aux portes de Sèvres. C'est un atelier avec une devanture jaune au niveau
côté
de l'arrêt Marivelle. Oui, c'est ça, à côté du vétérinaire, oui, ça parlera à beaucoup de monde.
Oui, là, il y avait un imprimeur avant.
Ils ont fait le ravalement de façade.
D'accord, voilà. Et on a, voilà, si vous voulez nous retrouver, Polygraph, on a. on a un site internet, polygraphe.fr, qui est en plein développement. On a un petit site vitrine qui, on l'espère, c'est notre projet aussi pour 2025, deviendra un portail pour acheter rapidement, commander vos flyers, commander vos brochures, découvrir tout ce qu'on fait. Voilà.
Merci beaucoup, merci Gabriel, merci Pierre-André, et bienvenue sur Chaville. Je ne sais pas si t'habites sur Chaville.
J'habite à Paris, voilà. Paris 14e.
Eh ben bienvenue.
Je travaille à Chaville.
Bienvenue à Chaville. Merci, je fais un petit rappel des coordonnées. Donc, vous pouvez retrouver Polygraphe au 155 avenue Roger Salingros à Chaville. Les horaires d'ouverture de 9h à 13h et de 15h à 18h du mardi au vendredi et de 9h à 13h le samedi.
Et le site internet, on peut le redire peut-être ?
Oui. Polygraphe.fr, tout simplement.
Voilà, tout simplement. Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Merci aussi aux auditeurs et aux auditrices qui nous suivent depuis bientôt 3 ans. On se retrouve lundi prochain, 8h. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE.